soi, c'est la fin. Parce qu'à 3-0, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais à 2, tout est encore très possible. Sam Montembeau devra continuer à être fumant. Reste à voir comment la troupe à Martin-Saint-Louis rebondira tant offensivement que physiquement. Parce que oui, ça va prendre une réponse au cross-check d'en face de Caulfield au dernier match à Washington. Puis être les arbitres, ça fait pas de tort siffler une fois de temps en temps. Bref, ça débutera à 19h au Centre Bell. Un autre club canadien au pied du gouffre, c'est les Oilers. Un copier-coller du CH en scénario, c'est-à-dire deux défaites à l'extérieur pour débuter la série, cette fois-ci face aux Kings. Vont-ils remonter la pente? Avec leur défenseur Evan Bouchard, a.k.a. Mr. Turnover, ça risque d'être difficile, comme dit M. Legault. Le match Kings-Oilers aura lieu à 22h au Rogers Place d'Edmonton.
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Les manchettes sportives, présentées par Uniclôture. Pour vos besoins de clôture résidentielle, commerciale ou industrielle, faites appel aux vrais experts. Uniclôture, unis avec vous, pour vous.
Choix.
Choix.
Hell yeah!
98. 1.
La fameuse, l'original. Choix.
Choix.
Radio X.
À Québec, c'est Radio X.
Choix.
Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Radio X-Files, présenté par Monster Spectacular, le spectacle familial par excellence à Québec. Achetez vos billets. Monster Spectacular, samedi 31 mai à 14h au Centre Vidéotron.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files, avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh!
Radio X. Bon début de soirée, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Radio X-Files, l'émission consacrée aux phénomènes étranges, aux énigmes historiques et même les théories du complot. Et sans plus tarder, pour débuter l'épisode de ce soir, on replonge dans l'année 1965 avec un court extrait sonore.
Sol est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au Café des Sports de ce charmant petit village. Il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi, messieurs, le principal témoin de l'affaire, M. Mass, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose?
Allez, ouais, M. Masson!
Le patron de l'établissement, M. Masson.
Allez.
C'est aujourd'hui. Monsieur Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de Monsieur Mass qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous.
Ça, la matinée, Maurice Mass est venu, c'était un ami, et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ. Et il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Ou...
Et vous avez pu garder le secret combien de temps?
Jusqu'au lendemain.
Et le lendemain?
Le matin, tout le monde, enfin, on en a un peu parlé, et tout le monde prend ça, est venu. Et...
Tous les journaux de la région,
sont venus, voilà.
Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valensol?
Moi, je crois, parce que d'après les empreintes qui se sont produites sur le terrain de M. Mass, effectivement, un engin s'est posé là-dessus.
Les empreintes sont très visibles?
Sont très visibles, oui.
Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs?
Non, par aucun appareil connu, je ne crois pas.
Et est-ce que M. Mass est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps
non,
en temps?
Là, j'ai eu l'impression que vraiment, il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné. Et... de l'engin qu'il avait vu. Hein.
Et est-ce la perspective du développement de cette affaire qui a fait partir M. Mass sur la Côte d'Azur?
Non, c'était un voyage qu'il devait faire parce qu'il devait transporter sa fille à Marseille, chez des amis, des pêcheurs, argiens. Hein.
Alors les Martiens à Valensole, cela ne vous fait pas peur?
Non, mais je crois pas, non.
Parce qu'effectivement, il a dit également qu'il avait vu un Martien.
Deux mêmes. Un qui était posé à terre et l'autre qui était dans la cabine.
Et puis l'engin est parti.
Et l'engin est parti de suite après quand il a été aperçu, quoi.
Le point d'interrogation semble s'être envolé en même temps que la soucoupe, et aujourd'hui, si les empreintes posent encore un problème aux enquêteurs, il semble cependant que la soucoupe ait été en réalité un hélicoptère, une Alouette 2 ou 3, qui participe aux manœuvres Provence 1965. Quoi qu'il en soit, la vie à Valensole n'en est pas pour autant perturbée, et les habitants continuent à additionner les soucoupes à la terrasse des cafés en pratiquant l'un de leurs sports nationaux.
Vous avez compris ce soir qu'on est dans la thématique des histoires d'ovnis et on était en 1965, donc il y a 60 ans, avec un incident, une rencontre extraterrestre en France. Et pour en parler de l'affaire de Valensole, c'est M. Christian Page. Bonsoir Christian.
Bonsoir Camille. Ça fait toujours rire quand j'entends ces vieux reportages, et en particulier, bon, ici ça concerne un événement qui est devenu un peu un classique dans l'histoire des ovnis. Et oui, effectivement, donc on a plusieurs thématiques ce soir, plusieurs sujets. Et je voulais commencer avec l'affaire de Valensole. Parce que il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans peut-être maintenant, j'avais reçu à l'émission le réalisateur Dominique Filhol, qui est un Français, qui a réalisé un film. On parle ici d'une fiction, on s'entend bien,
okay.
Mais une fiction basée sur un événement réel, entre guillemets, bien sûr. Basé sur un événement authentique. Et ce film s'appelle Valensole 1965 et qui reprend les grandes lignes de l'histoire de Valensole. Et lorsque j'avais reçu Dominique Filhol à l'émission Radio X-Files, à l'époque, on co-animait avec Yannick Marceau.
Oui.
Et donc, lui nous racontait donc que son film était basé sur cet événement-là. C'est un réalisateur, mais on est un peu ici dans le domaine du freelance, là, tu sais, donc une production indépendante. Il avait réussi à amasser, là, on parle d'un budget de près d'1 million d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent pour une production indépendante. Donc, 1 million d'euros pour tourner ce film qui raconte les événements de 1965. Mais au moment où on l'avait reçu à l'émission, il ignorait, bon, le film était en tournage. Je pense qu'on était rendu à la post-production à ce moment-là, l'étape de la post-production. Et on n'avait aucune idée de quand le film sortirait et de quelle façon il sortirait. Et là, donc, on a appris au cours des derniers jours une annonce officielle. Le film sera présenté dans les cinémas français, donc de l'autre côté de l'Atlantique, à partir du 9 juillet prochain. J'ignore pour l'instant si le film sera diffusé ou présenté dans des petites salles au Québec.
Est-ce que ça va traverser l'Atlantique?
Voilà. Mais ultimement, il faut s'attendre qu'on va le retrouver assez rapidement sur des plateformes genre Netflix ou autre, là,
okay.
Et on pourra à ce moment-là voir le film en question. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant, bon, puisque le film sort comme ça. À l'époque, mais évidemment, Dominique Filhol nous avait davantage parlé de la production du film, mais comme maintenant on nous annonce que le film va sortir, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de revenir un peu sur cet événement-là, qui aujourd'hui, hein, comme tu l'as si bien mentionné, on est pratiquement, là, quoi, 60 ans après les faits. Et on est toujours un peu dans l'ambiguïté, hein? Cette histoire-là est devenue un classique dans l'histoire des ovnis, mais c'est loin de faire l'unanimité. Donc, je rappelle un peu les faits. On se trouve à Valensole. Valensole, c'est un petit village qui se trouve au nord-ouest d'Aix-en-Provence.
J'ai lu que c'était très populaire pour justement les amateurs de phénomènes d'extraterrestres, mais est-ce que c'est du même ampleur, mettons, que la zone 51? Parce que j'ai lu lieu non. de pèlerinage, mais ça peut être très saucé.
Non, ça, faut faire retour. On pourrait faire des émissions là-dessus dans le sens, est-ce que c'est vrai qu'il y a des zones qui sont ce que les amateurs d'ovnis appelle des hotspots, donc des okay. lieux spéciaux où il y a plus d'apparitions d'ovnis. Ou est-ce qu'on n'est pas ici dans une espèce de billet de confirmation? Moi, j'habite, par exemple, Saint-Boniface, puis je veux croire que Saint-Boniface est un haut lieu des observations d'ovnis. Je me mets à colliger toutes les observations d'ovnis. Je suis actif dans ma région. Les gens me racontent leurs observations d'ovnis. Donc, comme je suis actif et présent, je viens un peu fausser les données statistiques.
Okay.
Et peut-être autant d'observations qui à Saint-Isidore, mais comme il n'y a pas d'ufologue à Saint-Isidore, personne qui est témoin d'un phénomène ovni à Saint-Isidore, non quelqu'un à qui le rapporter, il n'y a pas de tribune. Donc finalement, on vient fausser un peu les données. Donc dans le cas présent, et moi je te dirais que de façon générale, et là, tu as mentionné la zone 51. La zone 51, faut bien s'entendre, c'est un lieu de développement en avionique. Très spécifique, une base militaire ultra secrète. Donc là, ici, on est dans un domaine différent. Mais est-ce qu'il y a, de façon générale, des lieux accessibles au public où il y a plus d'observations d'OVNI que d'autres? Ben, je te dirais que sur le plan de la statistique, on n'a pas démontré ça. Il y a bien sûr des affirmations par des ufologues, mais on n'est pas en mesure de dire, bon, il y a plus d'observations qui se produisent à tel ou tel endroit.
Okay.
C'est amusant d'ailleurs que tu me mentionnes ça parce que dans les années, fin des années 70, début des années 80, Il y avait au Québec un groupement, ben en fait, des gens d'un ancien groupement. Ils venaient de disparaître à ce moment-là. Le groupe en était à ses dernières heures où il était sur le respirateur artificiel.
Okay.
Et ce groupe-là s'appelait UFO Québec, qui n'existe plus maintenant. Et à l'intérieur, au sein de UFO Québec, il y avait des gens qui étaient très sérieux, qui avaient une approche relativement rigoureuse, la question des ovnis. Parce que bon, faut quand même le dire, je sais que je donne souvent l'impression que tous les amateurs d'ovnis sont des rigolos. Mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a des gens qui font un très bon travail, qui s'intéressent à la question des ovnis, et ils appliquent les bonnes règles de la science et tout le reste. Et à la fin des années 70, début des années 80, il y avait un peu dans le milieu des ovnis, même si ça commençait un peu à être du réchauffé, là, il y avait une théorie, une hypothèse qui avait été évoquée dès les années 60, ou même, je te dirais, dans les années 50. Une hypothèse qui avait été avancée en France par un auteur et ufologue qui s'appelait Aimé Michel, une espèce d'érudit, il faut quand même le bien le situer, et qui était un peu le père de l'ufologie française. Et à un moment donné, Aimé Michel avait dit que en plaçant des points, hein, il prenait des observations d'OVNI, et principalement, il y a eu en 1954, il y a eu en France une vague d'observations d'OVNI très importante. Encore une fois, on peut se poser la question avec le recul, est-ce que c'est les observations d'OVNI qui ont alimenté la presse, ou est-ce la presse qui a alimenté les observations d'OVNI? Hein, qu'est-ce qui venait avant, l'œuf ou la poule?
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu une ou deux observations d'OVNI qui ont été rapportées dans la presse, et là, tout le monde se sont mis à regarder dans le ciel et à voir des OVNI un peu partout? Là. Et là, bien sûr, plus les gens en parlaient, plus la presse en parlait, plus la presse en parle, plus les gens en parlent. Bon, ça reste encore aujourd'hui avec le recul, si on regarde au niveau des amateurs d'OVNI, ceux qui ont une approche rigoureuse du sujet, la vague d'observation d'OVNI en France en 1954 semble une vague artificielle, c'est-à-dire qu'elle a été créée un peu par une espèce d'engouement du public, un engouement des médias. Mais à cette époque, donc, un peu plus tardivement quand même, Aimé Michel, un an ou deux après, prend l'ensemble des observations qui avait été rapportée en France à l'époque. Et en plaçant ça sur une carte, il émet l'hypothèse, il croit, hein, il faut bien le préciser entre guillemets, il croit voir une espèce de logique dans ses observations d'OVNI, comme si des objets, les OVNI, se déplaçaient en période de 24 heures sur des lignes précises. Et il va appeler son hypothèse l'hypothèse de l'orthoténie. Hein, l'orthoténie qui, en fait, qui a une racine grecque et qui veut dire déplacement en ligne droite. Donc, selon Aimé Michel, si c'était vrai, si ça devait se confirmer, ben, tu comprends ça démontre une intelligence derrière les observations d'OVNI. Hein? Bon, et là, donc, tout le monde se met à raisonner à cette idée-là de l'orthoténie, les ovnis se déplacent en ligne droite, etc. Et puis, donc, l'histoire va un peu percoler comme ça dans le milieu des amateurs d'OVNI. Et puis, à la fin des années 70, début des années 80, on a deux ufologues québécois, des UFO Québec, un certain Marc Leduc et Jean Vézina, des gars très sérieux, entendons-nous, là, des gens très, très sérieux. Et puis, ils se disent, tiens, c'est amusant, on va essayer de voir si on peut pas faire la même chose au Québec. Hein. Est-ce que les observations d'OVNI rapportées au Québec suivent une espèce de schéma particulier? Et donc, en prenant une carte du Québec, ils vont essayer de traduire sur cette carte l'ensemble des observations d'OVNI rapportées depuis 1900.
Et donc, le tracé de ça.
Voilà, donc on est en, disons, là, pour prenons pas comme point de départ, on est en 1980 en ce moment-là. Donc, ils partent donc de 1900 jusqu'à 1980 en fouillant, en épluchant les journaux et également les groupes d'OVNI qui sont apparus à partir des années 40. D'abord des groupes, des individus indépendants. Je pense par exemple à Henri Bordelot, qui a été l'un des pères de l'ufologie québécoise, qui était un type qui travaillait de manière indépendante. Et puis ensuite arrivent les groupements d'OVNI comme UFO Québec et d'autres. Je pense à des groupes, il y avait la centrale de compilation ufologique à l'époque qui avait été dirigée par un certain François Bourbeau, Jean Cazot, bien connu des amateurs de Québec, hein, qui a été longtemps animateur et qui a beaucoup résonné sur la scène des ovnis, avait dès les années 60 aussi avait créé un petit groupe d'amateurs d'ovnis dans la région de Québec, la RPM ou un truc comme ça. Bon. Et bref, ces gens-là, ils faisaient de l'investigation. Donc, c'est un peu l'ensemble de ces observations colligées par différents groupes. qui vont alimenter un peu la banque de données de ces deux amateurs là, Jean Vézina et
Marc Leduc.
Et ils vont transposer donc ces observations. Et puis crois-le ou non, ils vont remarquer que effectivement au Québec, il semble y avoir des espèces de corridors en ligne droite où les ovnis semblent se déplacer et le point de rencontre de ces ça forme un peu comme une étoile et le point de rencontre de ces observations semble être la région du Mont Saint-Hilaire, Bel-Oeil dans ce secteur-là. Donc tu comprends qu'au moment où et là on a tout un vraiment là, l'étude des ovnis là, c'est fascinant sur le plan sociologique hein, comment ça va percoler dans le milieu hein. Donc à partir du moment où Marc Leduc et Jean Vézina vont publier leur étude qui est publié de manière privée, entendons-nous, hein, et il y a au même moment, il y a dans la région du Mont-Saint-Hilaire un individu qui s'appelle Richard Glenn, qui est bien connu également, oui. Je pense, de tout le monde au Québec. Puis bon, et donc Richard Glenn qui anime une émission qui s'appelle Ésotérisme expérimental, les extraterrestres. Il parle beaucoup de ces sujets-là. En fait, c'est un individu qui a beaucoup marqué l'imaginaire, mais en même temps, c'est un individu qui a été très important au Québec pour la vulgarisation de ces sujets-là, parce que c'est pas si lointain que ça, là, les années 80.
C'est vrai.
Il faut se rappeler que la première télévision spécialisée au Québec, c'est Canal D en 1995, et les autres télévisions vont suivre aux alentours des années 2000. Hein. Il va commencer à avoir des grappes, appelons ça comme ça, là, c'est le langage audiovisuel qu'on utilisait à l'époque, les grappes qui étaient Série Plus, Canal Historia, Canal Z, bon, ces canaux-là vont commencer à apparaître, et là, on va voir des canaux spécialisés se multiplier, et ensuite des plateformes comme Netflix vont arriver. Mais avant 1995, au Québec, il n'y a aucune télévision spécialisée. Donc, il y a, quand on veut entendre parler d'ovnis, de fantômes ou de sujets étranges, il faut espérer se croiser les doigts qu'à un moment donné, une des émissions, disons, d'intérêt public qui est présentée soit des réseaux comme TVA, qui à l'époque s'appelait Télémétropole,
oui.
Ou encore Télé-Québec ou des trucs comme ça. Hein,
le je pense, Canal exemple, Famille.
Non, ça n'existait même pas à l'époque.
Même pas encore.
Non. Donc on avait Télé-Québec, Radio-Canada en anglais pour en français, puis on avait TVA. C'était à peu près tout ce qu'on avait. Okay. Puis il est arrivé Télévision 4 saisons un peu plus tardivement,
okay.
Plus tardivement, mais dans les années 80 de mémoire. Donc à ce moment-là, il y avait pas grand-chose. Hein. On se croisait les doigts et puis on espérait. Bon, je sais par exemple que Claire Lamarche, qui a animé Droit de parole à Télé-Québec, et ensuite l'émission Claire Lamarche, une émission éponyme qui était présentée à TVA. Je sais qu'à quelques reprises, pour avoir travaillé d'ailleurs avec eux et avoir participé à ces émissions-là, ils ont fait quelques émissions genre croyez-vous aux fantômes, croyez-vous aux voyants, croyez-vous aux extraterrestres. Mais c'était très occasionnel. Donc, si on voulait vraiment entendre parler d'OVNI ou de choses étranges, on n'avait pas bien le choix, là. Il fallait syntoniser ésotérisme expérimental. On écoutait ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Et il y avait des invités, c'était vraiment en dents de scie, hein. Il y avait une semaine, ils pouvaient recevoir un individu qui était complètement déjanté, mais la semaine suivante, ils pouvaient recevoir un individu qui avait vraiment des choses à dire qui étaient très intéressantes.
Okay. Donc, c'était
pas très, très égal. Moi-même, j'ai participé à quelques-unes de ces émissions-là. Mon mentor, qui était le professeur Louis Bélanger de l'Université de Montréal, a également participé à quelques-unes de ces émissions. Donc, ça monte, on allait dans toutes les directions. Hein. Bon. Et Richard Glenn, donc, tout ça pour te dire que comme il habitait le Mont-Saint-Hilaire, et lorsque l'étude a été publiée par Jean Vézina et Marc Leduc, qui disaient, bon, il y a plus d'ovnis apparemment dans la région de Saint-Hilaire, tu comprends que Richard Glenn va capitaliser là-dessus, hein, et là, il va faire du Mont-Saint-Hilaire le haut lieu des observations d'ovnis au Québec. Mais il faut bien le dire, c'était une vision des années 80. Tout ça s'est écroulé comme un château de cartes. Là. Et éventuellement, on s'est aperçu que, bon, même Jean Vézina, avec lequel je garde un très bon contact encore aujourd'hui, j'ai un bon contact également avec Marc Leduc, mais on se parle de façon très occasionnelle. Mais à cette époque-là, c'était des trucs qui étaient dans l'air, on y croyait. Et avec l'avènement de l'informatique et tout le reste, on s'aperçoit qu'on avait les ufologues de l'époque, avaient un peu des billets de confirmation, il y avait des élection qui était un peu arbitraire. Donc, si on devait faire le même exercice aujourd'hui, en appliquant les bonnes règles de la statistique, en appliquant également l'informatique qui est venue au secours de la statistique avec le papier et le crayon, si je peux dire.
Ouais.
on aurait une vision tout à fait différente. Donc, les ufologues ont un peu abandonné cette idée de l'orthoténie, ont oublié que ce soit en France, que ce soit au Québec, peu importe. Mais bref, cette idée-là a été un peu abandonnée. Mais néanmoins, ça a fait sourire et ça a donné naissance un peu à ce mythe qui perdure encore aujourd'hui, qui voudrait que la région du Mont-Saint-Hilaire soit une région qui soit plus à propos pour observer des ovnis. Ben, je pense qu'en réalité, si le Mont-Saint-Hilaire est plus propice aux observation d'OVNI, ben, je pense que le fait qu'une piste d'atterrissage, un petit terrain d'atterrissage privé à Belle-Oeil, juste de l'autre côté de la rivière, ou encore on a Belle-Oeil avec un terrain d'atterrissage, on a un petit peu plus au sud, on avait une base militaire qui était à Saint-Hubert, et ensuite de ça, on avait bien évidemment les grands aéroports de Montréal, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, l'ancien aéroport de Dorval, et on avait également l'aéroport de Mirabel. Je pense qu'on se trouvait dans un environnement où on avait des corridors aériens qui ont pu influencer un grand nombre d'observations d'OVNI de l'époque.
Une possibilité de lumière dans le ciel pour le trafic aérien, là.
Et puis, en même temps, hein, faut quand même regarder l'impact que le discours a sur le public, hein. À partir du moment où on écoute les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, écoute Richard Glenn, c'est incroyable, hein. Je sais qu'on a souvent tendance un peu à rigoler avec Richard Glenn parce qu'il faisait sourire.
Il a été parodié aussi,
beaucoup par Rock et Belles Oreilles et tout le reste. Puis, l'émission Piment Fort, la première génération de l'émission Piment Fort avec Normand Brathwaite, il présentait un objet, puis c'était qu'est-ce que c'est ça, puis une patente un peu bizarre, puis il se mettait une grosse moustache pour imiter Richard Glenn, comme si l'objet qu'il présentait était d'origine extraterrestre. C'était vraiment rigolo. C'est un personnage qui était très coloré, qui a beaucoup marqué, mais en même temps, il a eu un rôle très, très, très important. Probablement, à mon avis, je pense que c'est l'individu, lorsque l'on parle de l'histoire des ovnis au Québec, c'est probablement l'individu qui a eu le plus d'importance. L'influence que Richard Glenn a eue à travers son émission Ésotérisme expérimental sur l'ensemble des phénomènes paranormaux étranges est indéniable. Ça veut pas dire que tout ce qu'il disait, ou que tout ce que ses invités disaient était vrai, mais néanmoins, ça a été vraiment une pierre angulaire. Hein. Je dirais qu'au Québec, il y a eu l'univers du paranormal avant Richard Glenn, et ensuite l'univers du paranormal après Richard Glenn. Il a été d'une très, très grande influence. Il a amené beaucoup des individus inconnus à se faire connaître, hein, des auteurs débutants qui se sont éventuellement illustrés. Je pense à moi, par exemple. Moi, quand je pensais à Richard Glenn, j'étais tout à fait inconnu. On était dans les années, fin des années 70, début des années 80. J'étais un parfait inconnu. Donc, il y a plein de gens comme ça qui ont passé sur le plateau de Richard Glenn, qui a aidé un peu à se faire connaître. C'est extraordinaire. Mais bon, encore une fois, faut quand même tempérer le rôle. Au niveau du discours, là, il y avait quand même des choses qui étaient un peu étranges. Mais là où je voulais en venir, c'est sûr qu'il y a un impact. À partir du moment où les gens s'intonisent Richard Glenn, on écoute cette émission-là, et Richard Glenn, semaine après semaine, répète aux téléspectateurs, « Ah, vous savez, le Mont-Saint-Hilaire est un lieu mystérieux. Le lac Hertel, c'est une espèce de lac sédimentaire au centre entre les deux monts qui forment le Mont-Saint-Hilaire, entre les deux reliefs du Mont-Saint-Hilaire. C'est un lac sédimentaire qui fait à peu près au maximum, je pense, c'est 60 mètres de profondeur. Mais bon, Richard Glenn disait, c'est sans fond, puis ça va au centre de la Terre, puis il y a des intraterrestres qui vivent là. Écoute, il y avait une mythologie là, qu'il avait créée à propos du Mont-Saint-Hilaire. Et à force de répéter ça, ben évidemment, les gens qui vivent dans la région du Mont-Saint-Hilaire ou les gens qui s'intéressent aux ovnis, ben allaient au Mont-Saint-Hilaire. Hein. Il y a même, à un moment donné, il avait parlé à la télévision qu'il y aurait une observation d'ovnis. Hein, lui, il était en contact avec les extraterrestres aussi, Richard Glenn.
Okay.
Il dit que les extraterrestres lui avaient dit qu'ils viendraient éventuellement faire un survol du Mont-Saint-Hilaire. On était à la fin des années 70, début des années 80. Et ça avait déplacé énormément de gens sur la montagne. Les autorités avaient dû intervenir. Ces gens-là étaient là. C'était une espèce de rencontre du troisième type. Là. Les gens allaient sur la montagne dans l'espoir de voir ces ovnis. Là. Donc, il y avait toute une mythologie, mais à force de répéter ça, ben évidemment, les gens levaient les yeux au ciel. Et il suffisait de voir si les gens avaient été ailleurs en région, si les gens auraient été à Drummondville ou à Québec, ils auraient vu les mêmes petites lumières dans le ciel, puis ils n'en auraient pas fait cas en se disant, ben, il doit s'agir d'un avion, il doit s'agir de quelque chose. Bon, on ne pouvait pas parler de drone à l'époque, mais on aurait pu dire un ballon sonde. Quoi. Mais si ce même phénomène est observé dans la région, région du Mont-Saint-Hilaire, avec la mythologie que Richard Glenn avait créée autour du lieu, ben évidemment, ça servait à alimenter le discours. Et lorsqu'on parlait à Glenn, on disait « Ouais, mais t'as inventé ça. » Il disait « Non, non. » Et là, il brandissait haut et fort cette fameuse étude réalisée par Jean Vézina et Marc Leduc, qui semblait confirmer le fait que le Mont-Saint-Hilaire était un lieu particulier.
Ce qu'étaient les influenceurs des phénomènes ovnis, si on veut.
Oui, oui, absolument. Donc, écoute, ça a été une période riche. Il y a vraiment des choses qui étaient le fun à cette époque. Là. Tu sais, c'était dynamique. Je garde un souvenir de cette époque qui est intarissable. Écoute, puis c'était une époque également où les gens, contrairement aujourd'hui, où le discours est très très polarisé, disons oui. Ça comme ça. Hein? Aujourd'hui, t'as ou la personne qui dit « Moi, je crois aux ovnis », puis si toi, tu y crois pas, t'es un... Je vais passer le mot, mais on a bien compris. À l'époque, là, c'était pas grave. Il y avait ceux qui croyaient, puis ceux qui croyaient pas, puis on se réunissait dans les mêmes salles, puis on s'engueulait, mais c'était toujours fait un peu avec une certaine convivialité, un certain respect. Des fois, le ton montait, puis là, bon, on sortait de là en donnant des coups de pied dans la porte. Mais la semaine d'après, on était de retour. Hein? Tu comprends?
On pouvait encore se parler.
Oui, c'est ça. Il y avait comme une espèce une espèce d'environnement. C'était une espèce de communauté. Ce que l'on n'a plus aujourd'hui. Puis ça, j'avoue que je suis très nostalgique à cette époque-là. J'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir.
Mais je reviens sur l'affaire de Valença.
Valença, c'est ça, t'éloigné.
Non, mais ça va me permettre de faire le pont avec ça. C'est de sortir. Parce que j'adore qu'on ramène l'histoire puis des phénomènes qui se sont produits dans le temps au goût du jour, mais de le ressortir au cinéma dans les prochaines semaines. Ne va pas aller un peu scraper cette histoire-là avec le climat qu'on a de discussion. Tu sais,
Je sais pas, parce que l'affaire Valença, elle est intéressante. Hein? Bon, évidemment, comme l'histoire de Valença est devenue une espèce de classique là, dans l'histoire des ovnis, il faut pas s'étonner que la région soit devenue un peu un chef-lieu pour les observations d'ovnis.
Okay.
Mais bon, encore une fois, de façon générale, aujourd'hui en 2025, quand on regarde sur les véritables données statistiques, si on regarde par exemple en France, ils ont un organisme étatique qui est en place depuis les années 70 qui s'appelle le GIEPAN.
Est-ce que ça a été utilisé par le GIEPAN, le Valença?
Le GIEPAN n'existait pas à l'époque, mais éventuellement le GIEPAN l'a introduit dans ces cas. Hein.
Okay.
Le GIEPAN arrive, là, grosso modo, là, il y a une espèce, comment je pourrais dire, ça va un peu percoler avant de se former. Là, on est dans la deuxième moitié des années 70. Il y a des gens qui travaillent au CNES, le Centre national des études spatiales, des ingénieurs en aéronautique, tout ça. La question des ovnis est importante, on en parle beaucoup, et finalement, à force d'en discuter, on va décider de créer le GIEPAN. Donc, le GIEPAN, aujourd'hui, il existe encore. Il y a un I qui s'est intercalé dans le nom. Là, c'est le GIEPAN, hein, parce qu'à l'époque, c'était le groupe d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, cet organisme ne faisait que colliger les rapports. On enquêtait. Si c'était particulièrement important, le GIEPAN envoyait un enquêteur sur place. Et puis, bon, c'était un organisme étatique. Et pourquoi c'est important, un organisme étatique? C'est que, quoi qu'en disent les amateurs d'OVNI, puis je vais pas taper sur ces gens-là avec un bâton, là, parce que je sais que souvent c'est la réputation que je me fais, là. Mais c'est pas ça. Je ne veux pas taper sur les chasseurs de fantômes ou les chasseurs d'OVNI. Mais quand les amateurs d'OVNI nous disent « Bon, j'ai enquêté sur une histoire d'OVNI », et à ce moment-là, bon, ben, il y avait pas d'opération militaire, il y avait pas de manœuvre, il y avait pas ci, il y avait pas ça. Moi, pour avoir été dans cette communauté-là, je peux dire qu'il faut prendre cette information-là avec beaucoup de recul. Parce que moi, là, à l'époque, là, je veux dire, quand j'étais pas connu, là, puis j'enquêtais ces ovnis, je peux-tu dire que quand j'appelais une base militaire, là, puis je lui disais, oui, je suis Christian Page, ufologue, est-ce que la semaine dernière, vous avez fait des manœuvres dans la région de Sherrington, près de la frontière américaine, je peux-tu dire qu'avant d'avoir fini ma phrase, il m'avait raccroché au nez.
C'est pas de tes affaires.
C'est pas de tes affaires. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier un peu de ça, parce que les amateurs d'OVNI, à moins d'avoir des bonnes relations, être bien connus, bah, je pense que t'auras pas vraiment un accusé de réception auprès des autorités, que ce soit la police ou que ce soit l'armée. Alors qu'en France, un organisme comme le GIEPAN, qui est un organisme étatique, donc qui faisait partie du Centre national des études spatiales, Évidemment, si une observation d'OVNI leur était rapportée, ces gens-là avaient un pouvoir auprès des services de la gendarmerie, ils avaient un pouvoir auprès des services militaires pour vérifier les informations. Donc, c'est pour ça que, et le GEPAN, donc avec les années, il a changé de nom, le GEPAN est devenu à un moment donné le CEPRA, qui voulait dire Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. On voulait pas utiliser phénomènes aérospatiaux non identifiés parce que ça avait commencé à avoir mauvaise presse, donc on avait changé le nom pour ça, mais c'était la même chose, on enquêtait ces ovnis. Et ensuite, le GEPAN, bon, a retrouvé droit de séance en récupérant les phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais il a intercalé dans son appellation un I, mais parce que le groupe aujourd'hui s'appelle Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux. Donc, il s'est donné un mandat d'informer également le public, et avec la venue, il y a quelques années, le passage, et ça, c'est probablement été un point tournant dans l'histoire de l'organisation. Il y a quelques années, il y avait le directeur du GEPAN s'appelait Xavier Passot. Et Xavier Passot a fait un travail, il a fait quelque chose que jamais personne avant lui avait osé faire. Il a introduit, il a incorporé dans l'organigramme du GEPAN les ufologues amateurs. Sérieux, mais amateurs quand même. Donc, pour avoir une meilleure vision sur le terrain, parce que le GEPAN, c'était une toute petite organisation là au sein du CNES, et ils pouvaient pas se permettre d'envoyer des enquêteurs un peu partout à travers la France pour enquêter sur les observations d'OVNI. Xavier Passot, a développé, d'ailleurs, qu'on a reçu à l'émission des Radio X-Files à deux ou trois reprises, Xavier Passot a établi une espèce de contact avec les ufologues les plus sérieux qui étaient en France, et avec eux, il a développé une collaboration. Donc, c'est une observation, mettons, par exemple, bon, le CNES, là, le GEPAN, son siège social se trouve à Toulouse. Donc, s'il entend parler d'une observation d'OVNI à Aix-en-Provence, ben, il regarde dans sa liste, il y a des ufologues reconnus, réputés, très sérieux dans la région d'Aix-en-Provence. Ben, on va prendre le téléphone, on va les appeler, puis on va leur demander d'aller enquêter sur le terrain en suivant les règles établies par le GEPAN. Donc, ils ont des règles d'approche et d'interview, de questionnement, bon, formulaire et tout le reste. Une espèce de formation, d'ailleurs, qui est offerte par le GEPAN à ces ufologues-là pour qu'ils deviennent un peu des enquêteurs parallèles au GEPAN. Travail exceptionnel qu'ils font, le GEPAN. Mais le GEPAN, donc, en 1965, n'existait pas. Donc, quand il s'est produit l'affaire de Valensole, ils n'ont pas enquêté sur l'événement. Mais comme c'est un événement tellement important dans la culture ufologique française, quand le GEPAN a eu ses assises, ben, ils sont revenus un peu sur l'affaire de Maurice Mas, hein, c'est le nom du témoin principal.
Qui est un agriculteur.
Ouais, de Valensole. Et cette affaire-là a été enquêtée, mais enquêtée, entendons-nous, 15 ans, 20 ans après les faits, ça devient difficile. Et on va le voir. D'ailleurs, je veux revenir là-dessus, parce que c'est une histoire intéressante. Il y a tellement de contradictions dans l'histoire qu'on peut... C'est très ambigu, un peu, de déterminer ce qui s'est passé réellement. Mais bon, bref, ce cas-là, le cas de Valensole, il est classé au GEPAN dans la catégorie D. Hein, ils ont A, B, C, D. D étant les observations inexpliquées. Donc, il est classé dans les cas inexpliqués. Donc, on n'a pas trouvé d'explication rationnelle à cette histoire-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, puis ça ne veut pas dire que c'est pas un canular, puis qu'il n'y a pas eu une erreur, puis ça veut simplement dire que pour l'instant, le GEPAN n'a pas une explication formelle à proposer à cette histoire-là. Mais le GEPAN souligne quand même qu'il n'y a qu'un seul témoin. Ça, c'est un peu triste. Hein. On a un témoin, personne d'autre dans la région de Valensole ce matin-là, vu quoi que ce soit. Donc, ça reste un peu ambigu et il n'y a pas eu vraiment non plus d'enquête sur le terrain. Même si les amateurs d'OVNI aiment bien nous dire que la gendarmerie y est allée. En fait, la gendarmerie y est allée à deux reprises. Ils ont fait un travail épouvantable. Ils sont arrivés là, ils ont regardé, ils ont marché dans le champ, ils ont pris des notes, mais ils n'ont pas pris une mesure précise. C'était vraiment le bâclé, là. Je veux dire, à partir de ces documents-là, il n'y a strictement rien que tu peux faire. C'est simplement un constat, là. La police est allée là, puis on dit, on y est allé, puis on a vu ça, puis merci, bonsoir. Il n'y a rien qu'on peut tirer. Il n'y a pas de matière réellement, là, qualitative que l'on peut tirer des procès-verbaux qui ont été faits par des policiers. Donc, voilà, là, je sais que j'ai fait un grand détour, mais c'est une histoire qui est fascinante. Donc, l'affaire se passe le 1er juillet 1965. Je vais te la raconter dans une première version, parce qu'il existe à peu près 20 versions de l'histoire. Okay. Donc, on va raconter
la première
version. On y va
avec l'original.
Version. On y va avec l'original. Préfères-tu prendre une pause maintenant, puis on revient avec Valensole, ou on continue sur notre lancée?
C'est, dépendamment, écoute, je te cacherai pas que ce soir, le temps nous est beaucoup compté. C'est possible qu'on fasse que Valensole. Fait qu'on peut faire une pause tout de suite et la résumer au retour.
C'était sacré à moi. Cette émission-là est pas assez longue. Alors, OK. On y va pour une pause. Je te reviens avec Valensole.
De retour dans quelques minutes.
Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, Christian, je sais que ça passe vite, alors je te laisse tout le terrain pour nous raconter l'affaire de Valensole de 1965. Version 1!
La version 1, et bon, ensuite, on va apporter les correctifs. On est le 1er juillet 1965, donc Maurice Mass se lève, il se rend au champ, il est à peu près 5h du matin. Il faut dire que c'est un cultivateur, en fait, il cultive de la lavande, c'est magnifique cette région-là de la France, pour ceux qui n'ont plus visiter l'été, là, les champs à perte de vue avec cette couleur violet, là, c'est extraordinaire. Donc, il a des champs de lavande et donc il s'en va au champ, il est à peu près 5h. Et puis, bon, il travaille pendant à peu près une demi-heure. Et là, il raconte que vers 5h30, 5h45, il arrête son tracteur, il est derrière une espèce de monticule formé de pierrailles. Il s'allume une cigarette et là, il entend une vibration dans l'air. Il va donc contourner un peu ce petit monticule et là, il voit à une distance peut-être de 80-90 mètres de lui, il voit un objet qui semble posé dans le champ de lavande. L'objet ressemble un peu à un ballon de football avec une coupole par-dessus. En dessous de l'objet, il distingue ce qui lui semble être comme 6 pieds, hein, comme... posé à travers le sol et sous ses à travers ses 6 pieds, on voit au centre il y a comme un cylindre qui semble posé sur le sol et tout près de l'objet, en fait ces détails-là vont devenir un peu secondaires parce que ce qui attire surtout la Maurice Mass, c'est qu'il voit juste devant l'objet deux personnes qui semblent accroupies à regarder un plant de lavande.
Okay.
Ces deux personnages ont à peu près la taille d'un enfant de 8 à 10 ans. Ils portent une espèce de combinaison. Ils n'ont pas de casque, mais simplement une combinaison très ajustée au corps. Et ce qui le frappe également, c'est qu'ils ont une tête qui est complètement disproportionnée, là. Il dit 2 à 3 fois la grosseur d'une tête humaine. Ces personnages-là, ils sont curieux. Au tout début, ils disent c'était peut-être un hélicoptère. Mais là, au fur et à mesure, ils s'approchent progressivement vers ces personnages. Et là, une distance de quelques mètres, hein, ça c'est entre 5 et 10 mètres de distance, l'un des personnages qui lui faisait face semble l'apercevoir. Et là, l'autre personnage qui était de dos se relève, se tourne, et là, il tient dans sa main comme une espèce de cylindre qu'elle pointe en direction de Maurice Mass. Et Mass est comme paralysé sur le coup, là. Il est littéralement pétrifié. Ces deux personnages vont grimper rapidement dans l'objet. Il y a une porte qui glisse du haut vers le bas, une espèce d'écoutille qui va se fermer sur le côté de l'objet. Et très rapidement, la base de l'objet va légèrement soulever. Ce qui semblait être des pattes en dessous de l'objet vont se mettre à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme une hélice inversée. Et là, l'objet, rapidement, va s'élever et s'éloigner. Et bon, Maurice Mass voit, lorsqu'il arrive sur le terrain, à l'endroit où l'objet était posé, il y a des traces, des plants de lavande. Le sol est devenu comme très boueux et les plants de lavande ont été endommagés. Le même matin, en avant-midi, il va se rendre chez Monsieur Masson, qu'on a entendu tantôt dans notre extrait ou en début d'émission, hein, le patron du Café des Sports.
qui est comme le seul à avoir eu le secret en premier. Le
parce que Maurice Mass arrive chez lui, il est à peu près 10 heures. Et là, il lui dit, écoute, il m'est arrivé quelque chose ce matin. Et là, il raconte cette histoire-là. Il dit, faut pas en parler à personne. Masson va se rendre avec Maurice Mass sur le terrain. Il va observer les traces à son tour. Et c'est Monsieur Masson, hein, donc celui qu'on a entendu dans le petit extrait, le propriétaire du Café des Sports, qui va lui contacter la gendarmerie. C'est pas une démarche faite par Maurice Mass, mais vraiment une démarche faite par Monsieur Masson. Et là, bon, la gendarmerie va se rendre sur place, prendre quelques relevés, prendre le témoignage de Maurice Mass. Bon, et puis l'affaire, éventuellement, va se retrouver dans les journaux et ça va être une véritable frénésie, là, un cirque médiatique. Les gens affluent vers le terrain de Maurice Mass, à un point tel que Maurice Mass va cesser toute communication avec les médias. Et d'ailleurs, on le voit dans le petit reportage, « Ah, mais Maurice Mass est parti en vacances. » Et on demande même au propriétaire, est-ce que Maurice Mass est parti parce qu'il y avait trop de journalistes qui voulaient... Il dit, non, c'est parce qu'il devait aller reconduire sa fille. Mais en réalité, Maurice Mass ne s'attendait pas à un tel déferlement de médias.
OK.
Donc ça, c'est grosso modo l'histoire. Il va raconter aussi que après cette rencontre, il va souffrir d'hypersomnie. C'est-à-dire, lui qui dormait 5 à 6 heures par nuit va se mettre à dormir 15 et 16 heures par jour pendant plusieurs semaines. Il va dire également que sa montre accuse un certain retard, une montre qui a toujours bien fonctionné. Et là, soudainement, il se met à accuser du retard. Bon, cette histoire-là va devenir un classique. Le problème avec l'affaire je joue pas le sceptique ou pas le sceptique, là, ou simplement le journaliste. Le problème avec l'affaire de Maurice Mass, c'est que Maurice Mass lui-même se contredit à plein de fois.
Okay.
Il donne toujours des versions un peu différentes de l'objet, donc c'est vraiment choisis la version qui te plaît. Hein. À un moment donné, il dit, quand je vois l'objet en premier, je suis à 100 mètres, 90 ou 100 mètres. Une autre fois, il dit qu'il est à 70 mètres. Une fois, il dit qu'il se rapproche à 15 mètres. Une autre fois, il dit qu'il se rapproche à 3 mètres. Après, il dit qu'il est allé sur place, sur le site même de l'atterrissage, immédiatement après coup. Dans d'autres versions, il dit qu'il est retourné travailler puis il est pas retourné sur le site avant plus tard dans la journée. Il va d'ailleurs donner des versions contradictoires lorsque il donne une première version le 2 juillet 65. Comme je l'ai mentionné, la gendarmerie se retrouve un peu questionné par la gendarmerie, un peu contre son gré, hein. C'est pas lui qui a fait cette démarche-là auprès de la gendarmerie. C'est un peu comme s'il était parachuté dans une histoire qui commence à le dépasser. Et là, il dit, dans une des versions, il dit, il parle pas des bonhommes, hein. Il voit rien que la machine. Ensuite de ça, il rajoute des bonhommes. Mais quand il rajoute les bonhommes, ils sont pas tout à fait pareils, hein. Au début, les bonhommes, ils ont des cheveux puis ils sont pas chauves. Ensuite, les bonhommes deviennent chauves au fur et à mesure où ils racontent l'histoire. Au début de l'histoire, il y a un bonhomme qui est dans le vaisseau parce qu'il le voit, dit-il, à travers la coupole. Il y a comme une espèce de coupole sur le vaisseau. Il le voit à travers la coupole. Il y a qu'un seul de ces personnages qui est à côté de l'engin à regarder un plan de lavande. Et c'est le personnage dedans l'engin qui semble apparemment alerter le personnage qui est au sol. Et dans une autre version, il y a deux personnages qui sont au sol. Donc, tu vois,
Fait qu'il y en aurait trois total ou les deux sont au sol?
Non, il change complètement sa version. Il y a tellement de contradictions. Et ce qui est un peu frappant dans cette histoire-là, puis là, ensuite de ça, il dit, il y a des traces au sol, puis là, à un moment donné, il dit, il n'y a plus rien. Le sol était comme devenu comme de la boue, mais quand les gendarmes, eux, arrivent, ils voient pas ça, ils voient que le sol est dur. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas rien qui a repoussé là pendant des mois, mais il y a des photos qui ont été prises par des amateurs quelques semaines après, puis les plans avaient repoussé normalement. Et ensuite, on dit que sous l'objet, il y avait une espèce de cylindre qui avait creusé dans le sol, un peu comme pour faire un carottage, mais des gens qui vont se rendre sur place vont constater que ce trou-là, dans un premier temps, Maurice Mass dit, je l'ai rempli le soir même. Donc, s'il l'a rempli le soir même, comment est-ce que le lendemain ou le surlendemain, des gens peuvent observer le trou si Maurice Mass dit qu'il l'a comblé lui-même le soir même? Et à d'autres moments donnés, lorsqu'il monte le trou, il monte le point au sol où il y a eu le trou, des gens qui sont là, qui connaissent un peu les phénomènes météorologiques, reconnaissent un point de contact avec la foudre. Quand la foudre frappe le sol, elle fait comme une espèce de motif en étoile. Or, l'élément que Maurice Mass leur montre est clairement un point de contact de la foudre. Donc, on n'arrive plus plus à démêler ce qui est vrai ou pas vrai.
En fait, en combien de jours, semaines, mois, années?
Deux semaines. En deux semaines, cette histoire-là s'est transformée. Et Maurice Mans, bon, tu sais, on l'entend d'ailleurs, pis c'est pas anodin, hein, quand le type, le journaliste demande à Monsieur Masson, dans la petite entrevue qu'on entend au début, oui, mais est-ce que Maurice Mans est un type qui faisait des plaisanteries? Pis là, t'entends les gens qui rient un peu autour, et là, le type, Monsieur Masson, dit non, il était très sérieux. Mais en réalité, là, c'est pas anodin que le journaliste pose cette question-là, parce que Maurice Mans a la réputation d'être un blagueur. Il aime compter des blagues et raconter des trucs comme ça. Donc, on le dit pas là dans le reportage, mais en réalité, il était bien connu dans la région de Valensole pour être un type qui aimait raconter des bobards un peu de cette manière-là. Donc, toute cette histoire-là va éventuellement devenir un grand classique de l'ufologie française, mais ce que l'on peut déplorer, parce qu'encore une fois, comme je le mentionne, hein, l'affaire est toujours classée comme dans la catégorie des cas D auprès du GEPAN. En fait, il est demeuré un cas D, puis il demeure encore aujourd'hui un cas D, probablement à cause de la très mauvaise enquête qui a été faite à l'époque.
Donc D, d'abord, ça veut dire indice faible de...
D, c'est des cas inexpliqués.
OK.
Le GEPAN, c'est ça. Donc, A, c'est les cas clairement identifiés. B, c'est les cas qu'on a identifiés, mais qui ont été rapportés comme étant peut-être un peu étranges au début. Les cas C, par exemple, c'est les cas où on n'a pas d'explication officielle, mais ça pourrait fortement être soit un avion ou un phénomène autre.
Parce que D, répète, difficile à être crédible.
Mais en fait, pourquoi le cas de Valensole demeure encore aujourd'hui un classique de l'ufologie? Évidemment, il y a le contexte. On est en 1965. À l'époque, on parle beaucoup de soucoupes volantes et tout le reste. Donc, évidemment, ça va marquer l'imaginaire. C'est les Martiens. Bon, on l'entend bien là-dedans aussi. Valensole a été visité par des Martiens. Il y a eu vraiment un déferlement de la presse. Donc, il y avait un contexte. Et ensuite de ça, il y a une très mauvaise enquête. Alors, les policiers n'ont pas fait vraiment des mesures. Les ufologues qui sont allés sur place dans les premiers jours, qui ont rencontré Maurice Mans, il était beaucoup plus intéressé par une espèce de biais de confirmation, c'est-à-dire on veut toucher l'homme qui a vu la soucoupe volante, tu comprends? C'est un espèce d'effet miracle. Oh, Maurice Mans les a vus, les Martiens, puis là, moi, je suis un ufologue, je crois qu'on est visité par des extraterrestres, je me rends là-bas, puis là, ma chance, c'est de rencontrer Maurice Mans qui me raconte son histoire, puis là, je reviens, c'est comme si, c'est pour un Français, là, à l'époque, là, un ufologue français rencontrait Maurice Mans, c'était comme un amateur de rock'n'roll qui rencontrait Johnny Hallyday, là. C'était comme ça, là, c'est comme l'univers. Là, c'était fabuleux. Hey, j'étais allé là, puis j'ai vu le site, puis c'est presque devenu un site de pèlerinage. Et effectivement, ça a marqué tellement l'histoire qu'avec le temps, cette région-là de Valensole est devenue, au sein des amateurs d'OVNI, un point important d'observation d'OVNI, alors que rien ne supporte ça. L'affaire de aujourd'hui, Maurice Mans est décédé.
Est-ce qu'il y a eu des enfants?
Oui, il y avait à l'époque, au moment où il a 41 ans au moment des faits, il a deux enfants, deux filles qui sont d'âge adulte à ce moment-là. Et il n'y a pas eu, à de mémoire, autant sa femme à l'époque, qui est décédée aussi depuis, mais ses filles qui sont encore vivantes, il n'y a pas eu vraiment de discours autour de ça. Elles n'ont pas pris vraiment la parole. Maurice Mans s'est retiré assez rapidement des médias. Il s'est éloigné des médias. Je sais que au milieu des années 70, là, on est en 74, il y avait un journaliste français, un véritable journaliste travaillait pour des grandes stations, là, RTL, France Inter et autres, qui s'appelle Jean-Claude Bourret. Et Bourret a écrit, c'est un gars qui était aussi fasciné par la question des ovnis, et Bourret a écrit plusieurs livres sur les ovnis, très croyant de l'hypothèse extraterrestre. Donc, évidemment, tous ces reportages étaient un peu orientés de cette manière-là. Hein. Et ça, bon, on peut pas y lancer la pierre. Hein. Souvent, on est un peu emporté par nos propres croyances.
Ouais.
Et donc, Bourret...
C'est un choix éditorial.
Et effectivement, et ce qui est malheureux ici, c'est que Bourret, quand on parlait des ovnis, cessait d'être un journaliste. Il devenait un amateur d'ovnis, tu comprends? Donc, sa bonne façon de faire du journalisme était simplement mise au rancard, là, à ce moment-là. Et je sais qu'au début... comme je te dis, là, 1973-74, il a animé plusieurs émissions à la radio. Jean-Claude Bourret, hein, il y a une espèce de billet d'autorité. Oui, c'est le journaliste Jean-Claude Bourret. Donc, ah, c'est sérieux, c'est le journaliste Jean-Claude Bourret. Parce que c'est vrai qu'il couvrait des choses qui étaient beaucoup plus sérieuses que les ovnis dans des grandes stations de radio ou de télévision. Mais bon, il a animé une couple d'émissions sur les ovnis. Et dans ces émissions-là, donc, comme il avait cette réputation, ben, il a réussi à avoir à son micro Maurice Mass. Et là, Maurice Mass le racontait à nouveau l'histoire de 1965 en ajoutant des détails, transformant des détails. Les extraterrestres ont une grosse tête, des cheveux, pas de cheveux, une petite bouche, une grande bouche, des yeux ordinaires, des yeux bridés. Ils ont une combinaison. C'est vraiment fait ton choix, là. Des fois, okay. Ils ont une combinaison orange, des fois, c'est une combinaison grise, une autre fois, c'est une combinaison bleue, une autre fois, c'est une combinaison métallique. Écoute, on sait plus où aller avec ça, là. Il y a tellement de versions. Et ces versions-là, entendons-nous, là, c'est pas essentiellement des versions rapportées dans la presse et transformées par les journalistes. On pourrait toujours dire, ouais, mais bon, le journaliste écrit ce qu'il veut. Non, c'est des versions qui sont des propos tenus par Maurice Mass.
Ouais.
Il suffit de voir les entrevues qu'il donne à la radio de l'époque et même jusque dans les années 70, notamment au micro de Jean-Claude Bourret, pour voir à quel point il déforme un peu l'histoire. Et là, on n'arrive plus vraiment à se démêler. Mais quelle histoire incroyable que cette histoire de Valensole. Et j'ai hâte de voir ce film 60 ans après d'un des événements qui a marqué l'ufologie française et qui est encore évoqué aujourd'hui comme cas extraordinaire. Alors que dans les faits, l'enquête a été l'enquête de l'époque a été un peu bâclée et sans aucun doute au profit de Maurice Mass lui-même. Alors, entre un verre de vin et un petit coup de pastis, les Martiens de Valensole, c'était parfait.
Il y a un peu trop d'absinthe qui s'est vu, effectivement.
Absolument.
Pour rappeler aux auditeurs, à l'affiche le 9 juillet 2025 en salle en France. Est-ce que ça va être disponible? C'est la mode maintenant de faire un simultané aussi sur des plateformes numériques à suivre. C'est pas une information qu'on a pour le moment.
Non, Christian, mais dès que je l'ai, je vais le communiquer, bien sûr, à l'émission Radio X-Files.
C'est parfait. Et ça va toujours trop vite. Je te remercie beaucoup d'être là. Je suis très contente aussi d'apprendre que la semaine prochaine, je serai pas seule en studio.
Non.
En vue de ta conférence du samedi 3 mai, qui est ça le comble, faut le rappeler. Et
oui.
Chapeau à toi, d'ailleurs, à l'Université Laval aussi. La semaine prochaine, ta conférence est à Québec et tu seras en ville. Et
oui.
On aura l'occasion de faire l'émission ensemble vendredi prochain. Lundi,
absolument.
On fait relâche. En fait, on a été par les élections fédérales. Ça sera une émission spéciale à compter de 20h sur nos ondes. Donc, on fait pause de Suspect X lundi prochain. Donc, ça va me faire plaisir de te retrouver vendredi. Bon week-end.
Absolument, toi aussi. Bon week-end.
Aux auditeurs également. Et à vendredi prochain.